Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Chers auditeurs, auditrices, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Soyez donc les bienvenus à l'émission Curiosité de vendredi, le décryptage des informations de notre région. Julia à la réalisation, accompagnée de Prisca, représentée par moi-même. Vous allez bien l'équipe ?
Ça va, ouais, bien.
Auditeurs, auditrices, ce soir, nous parlons de l'accès au sport nautique pour toutes et tous avec l'association Tous en mer, représentée ici même par Anne Furic, bénévole. Vous allez bien, Anne ?
Oui, très bien.
Et Antoine, moniteur, vous allez bien ?
Ça va, ouais.
Au sommaire également, la première édition du mini-festival LGBTQ+, organisé mercredi par le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, CMEA, un reportage réalisé par Emmanuel. Auditeurs, auditrices, deux chroniques vous sont aussi proposées. Ce soir, Jérémy nous propose une chronique sur une compétition sportive d'il y a deux semaines. On en saura davantage avec lui. Tu vas bien, Jérémy ?
Ah, tranquille, hein, vu la compète d'il y a deux semaines.
On est curieux. Alexis nous parle du livre Le magicien quantique de Derek Kunsken. J'espère que je prononce bien le nom. Chronique littéraire sur laquelle, vous avez bien compris, nous terminerons notre émission de Curiosité du vendredi. Auditeurs, auditrices, sans plus tarder, en présence de Loïva, partons à la découverte de nos invités du jour, Anne, bénévole de l'association Tous à mer, et Antoine, le moniteur. Tous deux nous entretiennent ce soir sur l'accès au sport nautique pour toutes et tous.
Curiosité. Pensez le futur.
Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons à nouveau en direct sur Curiosité pour notre interview thématique du vendredi soir, Penser le futur, préparer l'avenir. Nous sommes le vendredi 19 mai, et oui, déjà, nous nous rapprochons de plus en plus des grandes vacances, et pour nous mettre dans le thème de l'été, aujourd'hui nous allons parler de bateaux à voile et d'excursions en mer, avec l'association Tous en mer, dont deux représentants sont avec nous ce soir dans le studio de Prune. Nous accueillons donc Antoine, moniteur salarié de l'association, et Anne, membre bénévole de l'asso. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
L'association Tous en mer se présente comme un centre nautique associatif qui organise des séjours en voilier habitable pour donner accès à la navigation à celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de vivre cette expérience, que ce soit pour des raisons économiques, sociales, culturelles, de santé, de handicap. Ma première question pour vous, Antoine et Anne, depuis quand l'association de Tous en mer existe-t-elle exactement et qu'est-ce qui a motivé la création de ce centre associatif ?
Alors l'association en tant que telle, elle existe en tant que structure déclarée. Elle existe depuis 2018. Elle fait suite à une expérience de fête animée par une bande de copains qui ont emmené en mer des gens qui n'avaient pas l'occasion de le faire. L'association, elle a mis un an à trouver des activités. Donc elle a été créée en 2018, elle fonctionne depuis 2019.
Et donc qu'est-ce que vous avez vu pendant cette expérience que vous avez faite entre copains qui vous a poussé à la création ? C'était les retours des autres personnes, l'expérience en elle-même ?
J'y étais pas.
Ah, vous y étiez pas.
Je fais pas partie des copains en question. Je suppose qu'ils se sont dit que c'était super et qu'il fallait continuer et élargir le public.
L'association est nantaise, mais est-ce que vous avez un centre en bord de mer physique ?
On n'a plus pas. Alors on a plein de particularités, mais une de nos particularités, c'est que l'association ne possède pas de bateau. Alors je vais vous donner la raison avant de vous dire où on est. En fait, les bateaux habitables sont souvent en fibre de verre, noyés d'époxy, qui sont des produits extrêmement difficiles à recycler. Il commence à y avoir des filières de recyclage, mais ça reste très compliqué. La plupart des bateaux ne naviguent pas ou peu, et un bateau qui navigue pas, c'est un bateau qui meurt, et un bateau qui meurt, c'est un bateau qui va être difficilement recyclé. Du coup, Tous en mer a décidé de ne pas rajouter de l'existant à l'existant, donc d'utiliser des bateaux qui ne sont pas à l'association, qu'on loue ou qu'on emprunte à des particuliers, à des loueurs solidaires. Du coup, on n'a pas de base fixe, c'est là où sont les bateaux. Cela dit, 80% du temps, on part du port du Croisty, qui est à la sortie du golfe du Morbihan, dans la baie de Quiberon.
Donc l'objectif, nous l'avons dit, de donner accès à la navigation aux personnes qui n'auraient pas l'occasion de vivre cette expérience en temps normal, ou en tout cas avec plus de difficultés, donc pour des raisons financières, sociales, de santé, etc. Et concrètement, comment cela se passe-t-il? Par quels moyens ouvrez-vous la navigation à ces personnes? Vous l'avez dit, je pense qu'un des premiers moyens, du coup, c'est les bateaux que vous voulez louer aux propriétaires.
On indemnise les propriétaires.
Vous indemnisez les propriétaires, et du coup, quel autre moyen?
Alors, Spatiale, tu veux compléter? Parce que sinon, je vais tout raconter.
S'il y a besoin.
Quel moyen? L'association, elle a d'autres spécificités que celle de ne pas avoir de bateau. Entre autres, on s'appuie sur un réseau de structures partenaires, c'est-à-dire d'acteurs de terrain. Alors, c'est les maisons de quartier, c'est l'Accor, c'est des associations spécialisées dans l'éducation. Enfin, des associations d'éducation spécialisées, des associations qui ont des thèmes spécialisés, des associations qui accompagnent les sortants de prison, les SDF, les personnes suivies pour addiction, mais aussi des foyers, des centres de remobilisation, des... Voilà, énormément d'acteurs et d'acteurs de terrain qui nous font rencontrer nos publics et qui nous permettent de nous inscrire dans l'accompagnement qu'ils proposent à l'année. Donc, une autre spécificité, c'est qu'on n'est pas en direct avec le public. C'est des associations, des institutions, des structures qui nous amènent le public, qui nous le présentent et qui nous fournissent aussi des accompagnateurs à bord des bateaux. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Si. Est-ce que Anne, vous voulez compléter?
Alors moi, je pourrais compléter par une remarque qui m'est venue très vite, qui donne la couleur de l'association. C'est quand on fréquente les ports de plaisance, on est habillé en jean et en pull, mais on sent un peu le niveau socio-économique plutôt élevé de ceux qui les fréquentent. Et quand d'un bateau sort de la cabine un jeune un petit peu bronzé, une jeune femme avec un foulard, c'est pas du tout... et ça fait tellement plaisir de se dire qu'ils ont accès aussi, avec des recherches aussi de participation pour que ce soit financièrement supporté par l'association... c'est leur donner accès alors que c'est un milieu tellement réservé, tellement d'élite. Enfin, je sais pas si... c'est comme ça que je l'ai perçu, je ne connais pas depuis longtemps l'association, mais c'est ça qui me frappe le plus et qui me réjouit.
Et du coup, pour participer à une excursion en mer dans le cadre de votre asso, il faut faire partie d'une association, d'une institution. Est-ce que par exemple quelqu'un lambda qui est peut-être en situation financière précaire mais qui ne fait pas partie d'une asso, d'un organisme, pourrait prétendre à une place pour une excursion?
Ouais. Alors, l'idée, c'est que ce soit pour toutes et tous, y compris les personnes lambda, qui ne passent pas par une structure particulière. C'est un peu nouveau pour nous, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Mais oui, on propose aux gens, quels qu'ils soient, de partir avec nous. Ça reste compliqué pour nous, ça reste compliqué pour des questions financières. Puisque du coup, quand c'est structure, c'est public spécifique, et du coup, subventions qui vont avec, ou appels à projets qui vont avec, on passe beaucoup de temps à chercher des sous. Pour le moment, on a du mal à équilibrer la question des gens qui viendraient en tant que particuliers. Cela dit, il y en a. Anne est un bon exemple.
Mais Anne est membre de bénévoles.
Ben, j'ai croisé, je ne sais pas trop, parce que je ne cherche pas sur Internet, et je suis tombée sur l'association. Et quand j'ai lu le site, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Donc j'ai pris contact, c'est Antoine qui m'a rappelé, puis deux jours après, qui me dit, ben, y a des places, est-ce que tu te dis, ben, moi, en deux heures, je fais mon sac et je file, je saute sur un bateau. Donc c'est comme ça que je les ai connus. Et il y a une autre chose qui me vient en pensant aux expériences que j'ai eues depuis un an, c'est que la priorité, elle n'est pas aux acquis techniques. Ça fait partie, parce que être sur un bateau avec le vent et la mer, il faut savoir faire avec, il faut s'adapter, il faut s'accommoder. Mais c'est que l'expérience humaine, elle est aussi importante que les acquis techniques. Et là-dessus, c'est des expériences avec des gens qu'on ne connaît pas, on est sur un espace un peu fermé, enfin un peu limité. Et c'est cette expérience-là qui est aussi un des aspects de l'association, c'est Que ce soit un mélange.
Créer du lien.
Ouais, créer du lien, inventer, créer, découvrir des gens d'horizons différents. Et c'est ça que je... Moi, qui, je suis une fan.
Qui vous enchante. Et du coup, combien de temps dure un séjour en mer et comment est-ce que c'est organisé? Y a j'imagine, un programme spécifique, une répartition des tâches, des apprentissages. Parce que vivre sur un bateau pendant plusieurs jours, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Il faut apprendre forcément à vivre un peu.
Alors, on part au minimum 2 jours, parce qu'on part sur des voiliers habitables et que la mise en œuvre d'un voilier habitable, elle est très longue. Et du coup, à la journée, ce serait pas rentable, ça ferait très peu de temps de navigation. Et puis, Anne vient de le dire, ce qui est important pour nous, c'est l'expérience humaine. Donc, la nuit à bord, la vie quotidienne à bord. Alors, ça s'organise collectivement. On y tient beaucoup. On rappelle souvent qu'on utilise des méthodes d'éducation populaire. Je vous entendais parler des CMA et vous allez en parler juste après. On est assez proches. Et donc ça se traduit par des décisions collectives à bord constamment. On décide ensemble, en fonction des conditions météo, du vent, mais aussi des envies des gens, de où on va aller, de combien de temps on va naviguer, de ce qu'on va faire. Et puis on va vivre comme un équipage, c'est-à-dire que du coup on va partager les tâches quotidiennes, faire la vaisselle, faire la nourriture, manger à l'heure, etc. J'ai dû oublier une toute petite partie de ta question.
Peut-être enseigner aux participants comment gérer un bateau, peut-être les voiles, la direction du bateau.
Là je vais relayer un peu Antoine. Par rapport à ça, ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai pu pratiquer dans d'autres milieux ou dans d'autres projets, c'est qu'on exprime les choses qu'on souhaite réaliser, les envies qu'on a. Elles sont différentes parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux. Le soir, quand on a fait une journée, on débriefe un petit peu si on était bien avec l'envie qu'on avait exprimée, est-ce que ça correspond? Qu'est-ce que j'ai envie demain? Est-ce que j'ai envie de faire plutôt... Enfin, je sais pas, des manœuvres sur le pont. Est-ce que j'ai envie de faire de la cartographie pour proposer le chemin où on va naviguer? Donc c'est ce côté-là aussi de dire où on en est, de s'écouter, d'écouter les autres, qui est la richesse aussi des liens qui vont se créer, des échanges qu'on va avoir entre nous. Alors, je pense que la navigation en mer, ça nous met dans un état quelquefois de rapport un peu existentiel. Être sur un bateau, de faire avec modestie, avec la marée, les coefficients, le vent, la houle, etc. Et que du coup, ça nous met aussi dans des échanges humains qu'on n'a pas tous les jours aussi facilement et rapidement entre les uns et dont on a besoin en ce moment, plus que peut-être... le contexte, il n'est pas facile, donc ça fait du bien.
Voilà. Effectivement, il y a de l'apprentissage maritime, mais ce qui compte pour nous, c'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure collective. Et par contre, bah oui, les gens apprennent à manœuvrer un bateau. On est moniteurs de voile tous. Enfin, il y a des moniteurs de voile permanents à l'association qui sont salariés. Et donc c'est notre métier d'apprendre la voile aux gens. Et les gens apprennent ce qu'ils ont envie d'apprendre dans le cadre de la voile. Par contre, c'est eux qui font. C'est-à-dire, sur un bateau de tous en mer, les moniteurs ne font rien. Ils expliquent. Mais c'est dès le départ, c'est pas nous qui dirigeons le bateau, c'est pas nous qui quittons le ponton, c'est les gens qui viennent à bord qui font tout.
Eh bien, nous allons nous arrêter là pour la première partie de cette interview. Restez en ligne, chères auditrices et auditeurs, et nous revenons juste après la pause musicale.
Merci donc pour cette première partie. Alors, pour la pause musicale, le titre c'est LSD et c'est par Diplo, Sia et Labrinth. Where's the love when all is said and done? Auditrice, c'était la pause musicale. Vous qui nous rejoignez, sachez que nous, Loïva est en entretien avec Anne Furic, bénévole, et Antoine, salarié de l'association de Tous en mer. Pardon. Ils nous parlent de leur objectif associatif, donner accès à la navigation à celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de vivre des séjours en voilier.
Curiosité. Pensez le futur.
Et oui, nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette interview, du coup avec Anne et Antoine, membres de l'association Tous en mer. Donc, dans la première partie de l'interview, nous vous avez présenté votre association, comment s'organisent les excursions en mer. Donc, c'est minimum 2 jours. Vous partez, vous m'avez dit, à 80% du temps dans le golfe du Morbihan. C'est une zone géographique que vous couvrez. Enfin, vous couvrez toujours cette zone ou vous êtes déjà allé ailleurs? Après, j'imagine que c'est limité aussi par rapport au nombre de jours de voyage.
Et aux conditions atmosphériques.
Oui, bien sûr.
Ouais. Parce que soit on a un objectif, un chemin à faire pour atteindre un endroit, soit on navigue et à ce moment-là, on construit ensemble, en fonction des éléments.
Et ça dépend.
Oui, ça dépend.
Alors, ça nous arrive de partir d'ailleurs. Pardon. Ça nous arrive de partir de l'Orient, ça nous arrive de partir du nord de la Bretagne, ça nous arrive, on va partir de Vendée bientôt, ça nous arrive de partir d'ailleurs. La raison pour laquelle on part du Cresti, c'est d'abord que c'est un très grand port, donc il y a beaucoup de bateaux à trouver. Et puis, la baie de Quiberon est un endroit très pratique où, en gros, quand il fait pas beau, on peut rentrer dans le golfe du Morbihan. Il y a rarement des grosses conditions de mer. À l'intérieur de la baie de Quiberon, s'il fait moyen beau, ça fonctionne. Il n'y a pas de houle parce qu'elle est coupée par la presqu'île de Quiberon. Et on peut quand même accéder à des îles comme Wat et Hédic. Et s'il fait beau, on peut aller jusqu'à Belle-Île. Donc c'est une zone où on peut naviguer quasiment tout le temps, quelle que soit la météo.
Et alors, je voulais vous demander en particulier, donc ces excursions que vous proposez, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'occasion en temps normal de vivre cette expérience, donc avec des difficultés financières, sociales, de santé ou de handicap. Et donc, je voulais vous demander, pour les personnes en situation de handicap, s'il est nécessaire qu'une personne les accompagne ou s'il s'agit d'une personne à mobilité réduite, est-ce que votre organisation et l'agencement des bateaux que vous utilisez leur permettent également d'accéder aux excursions? C'est des gros catamarans quand même, mais on peut imaginer que ça peut être...
Pour le moment, on peut accueillir énormément de types de handicap, et parfois avec des accompagnateurs, parfois sans. Par contre, on a une limite, c'est le fauteuil roulant. Effectivement, la mobilité réduite, pour le moment, on a des bateaux qui ne sont pas aménagés, donc qui nécessitent une montée un peu difficile, qu'on peut accompagner, mais en tout cas pas le fauteuil. Peut-être on y arrivera un jour, ouais.
Un jour. Et est-ce que vous avez eu des retours de personnes ayant participé aux excursions à la fin du séjour ou peut-être plusieurs temps après? Qu'est-ce qui en ressort en général? pour ces gens qui vivent une première expérience d'expédition en mer?
Anne l'a pas mal dit déjà, je trouve. Oui. Et on a des retours. Alors, on fait des bilans, nous, avec les gens, systématiquement à la fin du séjour. On fait aussi des bilans à froid, plusieurs mois après. On a les retours des accompagnateurs. On a souvent des éducateurs, des animateurs à bord. Et il en ressort beaucoup, beaucoup de choses. De la reprise de confiance en soi, de... énormément. Ce serait difficile de dire tout ce qu'il en ressort. En tout cas, on a des retours extrêmement positifs pour le moment de ce que ça produit, de ce que ça provoque. Alors, moi, j'ai plus des anecdotes en tête. Là, je rentre d'un séjour avec l'hôpital Marmottan à Paris, qui est un hôpital spécialisé dans les addictions. J'avais à bord une personne qui, un jour, s'est mise à exploser de rire. Au bout de quelques jours de bateau, il y a eu un fou rire généralisé. On a beaucoup ri et à la fin du fou rire, elle a dit bah, « En fait, ça faisait 2 ans que j'avais pas ri et j'ai retrouvé mon rire. » Et voilà ce qui se produit sur nos bateaux.
Oui, c'est aussi un objectif de votre association d'offrir une pause aux personnes au parcours de vie fragilisé. C'est tel, comme ça que vous le présentez en tout cas. Non,
c'est ça. Ouais.
Moi, je pourrais rajouter quelque chose que j'ai pas vécu mais que j'ai entendu relaté qui m'avait touché, c'est qu'il y avait un rassemblement assez important à Noirmoutier d'associations qui accompagnaient des femmes qui avaient vécu des violences. Et donc, il y en avait qui ont dû aller en train, en vélo, ou je ne sais pas. Et il y en a des accompagnateurs ou accompagnatrices qui ont fait le projet de venir en bateau. Et que le référent navigant, je l'ai entendu dire qu'il n'était pas revenu indemne de ce partage entre quelques femmes et les accompagnatrices qui se trouvaient dans une sorte de liberté sur le bateau et d'être en sécurité. Et c'était assez touchant d'entendre comment on relatait ces choses-là. Alors moi, il y a une autre chose aussi qui m'intéresse dans ce... Moi, je vis un peu l'association Tous en mer comme un laboratoire, un peu aussi de démocratie, parce que l'associatif, c'est aussi l'apprentissage de vivre des choses en société. Et qu'il y a, il y a par exemple une sortie où c'était en formation, 3 jours de formation, en débriefant, on s'est posé la question de la gestion des déchets à bord. Et donc, il y a un projet de faire une commission, un atelier, pour comment mieux vivre, alors qu'on est presque tous à l'étrier, et puis sur le bateau, c'est pas très adapté. Et on a, la dernière sortie que j'ai faite, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, on a mis ça en avant, et on l'a mieux géré. Et on a dit qu'on allait continuer. Donc c'est un peu un laboratoire, on expérimente, on ose, et on voit si ça marche ou pas. Tu complètes ainsi.
Ouais, c'est... Voilà, c'est en tout cas un moment qui fait du bien aux gens et qui fait du bien durablement. C'est-à-dire où les gens se remobilisent, se retrouvent, s'aèrent. Ne serait-ce que s'aérer, c'est déjà bien.
Pour parler plus généralement de l'océan, parce que c'est notre émission a aussi pour thème le futur, comment on le pense et comment on le prépare. Nous savons que l'océan joue un rôle clé dans la régulation du climat, notamment par son rôle de puits de carbone. Or, il fait face aujourd'hui à de nombreuses menaces, réchauffement, acidification, effondrement de sa biodiversité, pollution plastique. Est-ce que les excursions en mer que vous proposez ont aussi un but d'information, de sensibilisation? Est-ce que ce sont des questions que vous abordez durant les séjours avec les différents publics que vous accompagnez?
Ouais, alors ça fait partie intégrante, bah Anne vient de l'évoquer, hein, ça fait partie intégrante du projet dès le début, puisque c'est la raison pour laquelle on ne veut pas avoir de bateau. Au quotidien, c'est-à-dire au quotidien, nous on fait beaucoup, beaucoup de mouillage, c'est-à-dire on met beaucoup notre ancre devant une île, et puis on va sur l'île avec un petit bateau gonflable, mais on est sur l'ancre. Donc à ce moment-là, le bateau n'a pas d'électricité, n'a pas de ravitaillement en eau, on a des citernes d'eau, mais on n'a pas de ravitaillement en eau. Donc il faut, les déchets sont un point mort sur le bateau et un encombrement sur le bateau. C'est-à-dire qu'il faut gérer son énergie, il faut gérer la consommation d'eau, il faut gérer les déchets. Et ça, c'est juste la vie quotidienne. Après, on va pouvoir aussi parler de la faune, de la protection de l'environnement. On évolue dans un milieu qui est formidable d'un point de vue faune-flore. Et du coup, on sensibilise aussi les gens à ça. On va sur des îles qui n'ont pas d'eau. Quand on va se promener à Watt, on fait exprès de passer devant le cimetière de Watt où il est écrit à Watt, l'eau vaut de l'or. Voilà, donc oui, ça fait partie et du discours qu'on tient et de la pratique quotidienne sur nos bateaux.
Vous avez reçu dernièrement le prix de l'ESS 2022, donc le prix de l'économie sociale et solidaire, qui a pour objectif de faire découvrir, mettre en valeur et valoriser les activités d'entreprise ou d'organisation de l'ESS qui répondent aux besoins et enjeux quotidiens de notre société sur les territoires. Quelles conséquences cela a eu pour votre association dans la vidéo de présentation que vous aviez réalisée pour le concours? Il y avait notamment l'explication que vous recherchez des financements. Est-ce qu'il y a eu des évolutions à ce niveau?
Alors oui, un peu. En tout cas, le prix de l'ESS, ça nous a fait connaître. Et ça nous a filé un coup de pouce un peu sur des financements qu'on n'aurait pas espéré. Et c'est bien parce que je vais pouvoir parler de ça. Parce que du coup, l'objet de l'association, c'est d'emmener en mer des gens qui n'y vont pas. Et la première raison qu'on évoque, c'est économique. C'est-à-dire la voile habitable et l'accès à la mer sous cette forme-là, ça coûte extrêmement cher. C'est un sport de riche. Et nous, on propose de donner accès à ce sport de riche à tout le monde. Et du coup, il faut trouver des sous pour ça. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à chercher des subventions, du mécénat, des dons. Voilà. Enfin, je voulais évoquer cette idée que, oui, on passe notre vie à chercher de l'argent pour diminuer le coût de nos séjours, pour permettre à plus de gens de venir et pour permettre à plus de gens de découvrir la mer. Et du coup, le prix de l'ESS est un des coups de pouce parmi d'autres qu'on a eu, mais c'était un bon coup de main.
Oui, Anne, vous voulez ajouter ?
J'ai évoqué que j'avais fait une session de formation. C'est aussi un des aspects importants de l'association, c'est de proposer de la formation pour être autonome. L'objectif étant de devenir autonome sur un bateau, collectivement autonome, parce qu'on est rarement seul. Et c'est aussi vous avez une façon singulière d'aborder la formation à bord. On répète un petit peu, mais c'est des niveaux différents, alors que la plupart des stages de navigation, c'est pour des niveaux. Et que là, c'est le mélange où on est aussi sollicité à partager, quand on a un peu de connaissances, à côté de ceux qui sont nos référents. Tu complètes s'il y a besoin ?
Oui, c'est non, ça. Malheureusement, je ne vais pas compléter, mais c'est très bien.
On n'aura pas le temps.
Okay.
Juste pour conclure, du coup, vous serez présent à l'événement des Bords de Loire prochainement. Ce que vous m'avez dit.
Ouais, il y a deux événements là qui arrivent. Je le fais vite. Il y a deux événements qui arrivent pour nous. Annuellement, on organise une flottille de toutes les mixités où on embarque sur une dizaine de bateaux des gens de tous horizons qui sont venus l'année dernière avec nous et qui on propose de repartir. Donc ça, c'est notre prochaine grande date. Et puis début juin, le premier week-end de juin, il y a l'événement des Bords de Loire à Nantes, qui a lieu une fois tous les 3 ans, je crois, qui se passera du coup au bord de la Loire avec tout un tas d'associations et d'événements. Et on sera partie prenante de cet événement. On aura un stand tout le week-end. Il faut venir nous voir.
Eh bien, merci beaucoup Anne et Antoine d'être venus dans les studios de Prune pour parler de votre association Tous en Mer. C'était un plaisir.
Merci à vous.
Merci à vous aussi.
Merci à vous, Anne et Antoine, de donner tout simplement de la joie aux gens. Merci à toi aussi, Loïva, pour cet entretien. À présent, partons à la découverte de la chronique de Jérémy. Mais avant, écoutons cette petite musique Sun par Ebeas Meets Joby. J'espère que je prononce bien le nom.
Thank you.
Auditeurs, auditrices, c'était la pause musicale. Alors, Jérémy souhaite revenir sur la cause de son absence il y a cela 2 semaines. Allez, Jérémy, on t'écoute.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Eh oui, je vais vous expliquer pourquoi il y a 2 semaines, il n'y avait pas de chronique sport. Mais je vais me rattraper. Alors, du 5 au 7 mai, je suis parti avec mon équipe pour un week-end de finale de basket fauteuil. Du coup, je ne pouvais pas être à l'antenne. Et on est parti dans l'Aube, donc à peu près dans le sud de Paris. Donc voilà. On est parti le vendredi soir de Nantes, puisqu'on devait jouer le samedi matin, donc dans l'Aube, à 11h du matin. Donc c'était compliqué d'être là. C'était la première fois que je partais plusieurs jours pour jouer au basket, comme la plupart des joueurs de mon équipe aussi. On n'avait pas encore trop d'expérience des grands matchs, puisque imaginez-vous, il y a 2 ans, on ne gagnait presque aucun match, et là on se retrouvait en finale de championnat de France de notre division de basket fauteuil. Bon, avant de partir, on savait que le tirage au sort nous était pas très favorable, puisque dans un Final Four, normalement, il y a 4 équipes, hein, comme son nom l'indique, sauf que là, c'était un Final Four à 5 équipes, et on se retrouvait dans la demi-finale avec 3 équipes. Donc, on s'était préparé à jouer 2 matchs dès le samedi pour avoir le droit d'accéder à la finale du dimanche. Et je vais vous mettre dans l'ambiance. Donc, les choses sérieuses commencent pour nous le samedi matin à 11h contre l'équipe de Toulouse. On est motivé et confiant. D'ailleurs, le score est très serré pendant le premier quart-temps, malgré quelques ratés de notre part. Bon, ça, c'est parce qu'on avait peut-être un peu la pression, ou je ne sais pas trop. Mais après 10 minutes de jeu, les problèmes ont commencé. Puisque l'équipe de Toulouse a décidé de faire rentrer leur arme secrète. Il s'agissait d'un joueur de leur équipe première et venant habituellement 3 divisions au-dessus de la nôtre, ce que je vous laisse imaginer à quel point c'est compliqué de le contenir. Il a enchaîné les paniers, les passes décisives et a créé un écart de environ 22 points avant de ressortir. Et donc ça a été assez compliqué pour nous ce match. Et donc on a donc perdu le premier match. Mais donc avec cette défaite, l'accès à la finale était très compliqué, devenu quasiment impossible. Mais on pouvait se rattraper plus tard pour la deuxième demi-finale contre Strasbourg, qu'on a fait le même jour. Une victoire contre Strasbourg nous permettait par exemple d'accéder à la finale pour la 3e place, enfin la petite finale. Pour le deuxième match donc contre Strasbourg, 4h plus tard à 18h, enfin même plus que 4h plus tard, pour le deuxième match, l'histoire est différente. Pas de joueurs ayant l'habitude de jouer au niveau au-dessus en face, ce qui aide quand même si ça aurait pu être le cas, puisque Strasbourg est aussi une équipe réserve d'une plus grosse équipe. Mais on a réussi à développer notre jeu, à être efficace. On avait même eu plus de récupération que l'équipe adverse après notre match contre Toulouse, puisque Strasbourg avait joué à 13h et nous à 14h contre Toulouse et nous à 11h, donc on était bien physiquement par rapport à eux. Par contre, tout s'est bien passé, oui, voilà, tout s'est bien passé, l'écart s'est fait, on a gagné le match. Par contre, seul gros point noir de ce match, l'absence mais totale de public, puisqu'il n'y avait absolument personne dans la salle, ce qui est quand même un peu dommage pour une finale de championnat de France de basket, quand même. Mais bon, on avait gagné et tout ça. on était contents sur le coup, on était contents d'avoir gagné, puisque ça voulait dire qu'on ne finissait pas dernier du Final Four, enfin du Final Five du coup. Mais on a réalisé à ce moment-là qu'on devait jouer le lendemain à 9h du matin. Et ce que je ne vous ai pas dit jusque-là, c'est que notre hôtel était à 40 minutes de la salle. Donc je vous laisse imaginer dans quel état on était le dimanche à 6h du matin pendant le petit déjeuner. On était épuisés par le match de la veille et pas encore réveillés, mais bon, il fallait qu'on joue à 9h du matin le match pour la 3e place. Donc le match commence à 9h du matin. On fait face à Montpellier qui, eux, n'avaient joué qu'un seul match la veille, contrairement à nous, puisqu'ils étaient du bon côté du tableau, on va dire. On savait ce qu'on voulait faire, mais la fatigue s'est fait sentir de notre côté. En début de match, l'adresse n'était pas trop là. Les imprécisions, elles, par contre, elles ont fait le voyage avec nous, donc c'était super. Enfin, super dans le mauvais sens. Mais un panier à 3 points au buzzer de la mi-temps, digne de Stephen Curry, nous permet de rester au contact dans le match. Tout restait à faire en deuxième mi-temps, puisqu'on était à égalité à la mi-temps. Notre défense a commencé à parler pour nous, et tout a commencé à bien rouler, on a enchaîné, on a commencé à bien prendre de l'avance. Donc, on s'est fait plaisir et on a gagné le match. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a pas trop fêté ça, d'ailleurs. Puisqu'on devait peut-être soit un peu crever, soit juste pas embarqué par le formidable public qui n'existait pas dès le matin. Donc, et puis aussi, peut-être aussi à cause de l'écart du match, mais bon. Mais voilà pourquoi j'étais absent il y a 2 semaines. Mais j'ai une bonne excuse, puisque j'ai ramené une médaille de bronze du championnat de France N3 de basket fauteuil. Et ça, c'est quand même la classe.
C'est vraiment la classe. Félicitations à toi et à votre équipe.
Merci.
Alors, auditeurs, auditrices, à l'occasion de la première édition du mini-festival LGBT+, organisé par le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, le CMA, Emmanuel, notre stagiaire, s'y est rendu mercredi pour recueillir des propos.
Curiosité reportage.
CMEA, le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, organisa son premier mini-festival LGBT le mercredi 17 mai. L'événement se passa sous le soleil dans le jardin de ses locaux. Au programme, ateliers créatifs, discussions autour du genre et de la sexualité et un spectacle de la troupe La Cabane en fin de journée.
Oui, alors moi je m'appelle Sacha, je suis le responsable et le coordinateur des questions de genre au CMEA Pays de la Loire.
Et tu peux expliquer ce qu'est CMEA ?
Alors le CMEA, c'est le Centre d'entraînement en méthode d'éducation active. Du coup, on est une association d'éducation populaire. Et plutôt, notre gros du travail, c'est de venir faire des formations en milieu scolaire. Donc on est agréé par l'éducation nationale. Donc on fait ça à l'école et aussi en formation professionnelle sur plein de thématiques. Mais moi, du coup, je suis pilote spécialisée sur les questions de genre et de sexualité.
Il y a un événement spécial qui se passe aujourd'hui, c'est quoi ?
Donc aujourd'hui, on fait un festival LGBT. En gros, c'est un festival qui est financé par la DILCRA, qui nous donne de l'argent pour pouvoir notamment parler des LGBT-phobies. Et donc dans l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de petits ateliers. Donc on a un ciné-débat, un arpentage, on a des créateurs et des créatrices qui viennent vendre leur création. Ce soir, à 20h, on a un spectacle LGBT qui est du coup, lui, voué à être diffusé en milieu scolaire. Et donc à partir de septembre, on va l'amener dans des collèges et des lycées pour parler des questions LGBT avec les jeunes. Donc c'est un spectacle pédagogique de théâtre qui va être trop chouette et qui du coup fait sa première aujourd'hui. Du coup c'est un spectacle qui va traiter, alors moi je sais pas trop parce que je l'ai pas encore vu, c'est la première, mais en tout cas c'est un spectacle qui parle de transidentité, de bisexualité, de consentement, d'intersexuation, et qui du coup est voué à amener ces thématiques là de manière un peu fun et théâtrale pour un petit peu dédramatiser la chose et réussir à en discuter un peu plus facilement avec les jeunes sur un support différent que juste nous qui venons discuter avec elle et eux en classe, quoi.
Comment se passe la journée jusqu'à maintenant, parce qu'on est à 14h déjà ?
Alors, on est mercredi, il est 14h, donc on n'a pas encore eu grand monde, évidemment, on est au milieu de la semaine, les gens travaillent. Mais je pense que les gens vont commencer à arriver, là le ciné-débat commence à être plutôt plein, on a une dizaine de personnes, et les gens vont arriver, je pense, plutôt vers 16h, et à mon avis, on aura plutôt sable comble à 20h pour le spectacle. Mais donc c'est gentil, mais comme c'est la première édition, ça semble plutôt normal que les gens ne connaissent pas trop encore et que ce soit un peu timide, mais pour l'instant, on est satisfaite de ce qui se passe. Alors là, le ciné-débat, c'est sur l'intersexuation et on va voir le deuxième épisode de la série Océan qui parle d'intersexuation. Il interviewe une personne qui est intersexe et l'idée, c'est de ramener aussi la question de l'intersexualité dans le sujet parce qu'en fait, ça fait aussi partie des LGBT, donc c'est important.
Pour revenir plus globalement à CMA, est-ce que vous rencontrez des freins particuliers dans votre action ?
Alors, des freins à quel niveau ?
N'importe lequel. Est-ce qu'il y en a déjà ?
En fait, pas trop, parce que pour le coup, nous, on est une vieille association, donc on est plutôt reconnue et connue dans le milieu de l'éducation populaire et notamment par l'éducation nationale. De fait, on travaille en collaboration avec l'EDUCNAT. Donc, en fait, non, on n'a pas trop de freins. En tout cas, institutionnellement, on n'a pas de freins. Pour l'instant, ça va. En tout cas, sur le changeur qui a un salarié spécifique depuis 2 ans et qui est en création depuis plutôt 4 ans. On est en construction de quelque chose et pour l'instant, plutôt, ça file bien. Les choses marchent plutôt bien et en tout cas, même quand on est en classe ou en formation, pour l'instant, on n'a jamais eu d'esclandre ou de choses qui se passaient mal. Donc plutôt, les choses marchent plutôt bien pour nous pour l'instant.
Est-ce que c'est bien en fait ? Est-ce qu'ils sont réceptifs ?
Ça dépend des classes. En général, oui, ils sont plutôt réceptifs. On a toujours des élèves qui ne sont pas forcément hyper ravis de parler de ce genre de sujet, mais c'est toujours bien. Nous, on vient planter des graines et l'idée, c'est aussi d'être là dans de la bienveillance et de leur amener des choses pour qu'ils puissent construire un argumentaire après et essayer de faire en sorte que ce soit des jeunes qui soient de plus en plus tolérants et qui comprennent de mieux en mieux le monde dans lequel ils vivent. Donc oui, forcément, il y a des moments où ça se passe plus mieux que d'autres, mais de manière générale, ils sont quand même contents de pouvoir participer à ce genre de temps. Donc plutôt, ça se passe bien, en général.
Et donc là, en ce moment, si je ne me trompe pas, il y a un atelier peinture, on entend les bombes derrière. Tu peux en dire plus là-dessus ?
Oui, alors on a l'artiste Luche qui roule, qui vient nous faire un atelier fresque. Donc actuellement, on a une fresque dans le jardin du 102, qui est du coup nos locaux, qui est pas incroyable, on n'est pas sur la plus belle fresque du monde, du coup on a décidé d'en refaire une autre et donc c'est l'artiste Luche qui roule qui vient la faire et l'animer. Ça va prendre plutôt l'après-midi et donc les gens peuvent venir participer et mettre un coup de bombe si elles ont envie de venir mettre les mains dans la peinture. Donc, c'est trop chouette. Eh bien, de ne pas hésiter à venir voir ce qu'on fait au CMA, parce que du coup, nous, on est surtout une association militante, et donc on a des groupes recherche-action, notamment sur les questions de genre. C'est des groupes qui sont rejoignables sans adhésion, et même si on n'est pas bénévole au CMA. Et du coup, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail à genre@cma-pdll.org si on a envie de participer et venir causer de questions de genre, de sexualité et de pédagogie, parce qu'en fait, nous, tout ça tourne autour de la pédagogie et des enfants. Du coup, si ça intéresse les gens, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Voilà.
Alors je suis Luge, artiste invitée donc pour cette journée du mini festival LGBTQIA+ au CMA. Là j'interviens pour une fresque participative, donc on va essayer de peindre à plusieurs personnes cet après-midi. Et donc pour l'occasion j'ai fait un visuel abstrait où j'invite les gens donc à peindre avec moi pour qu'on puisse partager un petit peu un moment ensemble et puis essayer de échanger sur la technique et puis s'essayer. On n'a pas besoin d'être professionnel, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde, débutants, enfants, débutantes, peu importe les tranches d'âge.
Pour venir à vous personnellement, vous pouvez expliquer un peu votre style artistique
Alors ce que je dirais, je fais pas mal de choses. Il y a une importance du trait moi dans ce que je fais, beaucoup de gros traits noirs tous mes dessins, mes illustrations, je fais du figuratif mais là de plus en plus d'abstrait, donc aujourd'hui c'est vrai que ça va être un visuel abstrait, une volonté de plus en plus de faire des choses aussi abstraites, mais autrement ça peut m'arriver de coller dans la rue, c'est aussi une grosse partie de mon travail de faire des collages dans la rue, notamment de parfois peindre les copines ou les copains qui sont en drague, qui font du burlesque, etc., d'aller les coller dans la rue en ayant fait des portraits d'eux en acrylique. Ça c'est une partie de mon travail aussi. Et puis sinon des expositions, des workshops notamment. Voilà.
Et est-ce que cette fresque, vous avez une idée de ce que vous allez faire ou c'est on va avec l'énergie, le flow ?
Alors oui, moi j'avais fait une petite un visuel en fait déjà que j'avais préparé en amont pour voilà pour un petit peu voir déjà la surface que j'avais, le temps de travail que j'avais, etc. Parce que là on est sur une après-midi, donc c'est quand même du one shot. Il faut être assez rapide et efficace pour pouvoir faire la peinture. Donc j'avais essayé de réfléchir le visuel en amont comme ça et aussi pour que ce soit facile pour les personnes qui vont participer, voilà, qui n'aient pas besoin d'avoir trop de dextérité ou trop l'habitude de peindre et que ce soit quelque chose d'accessible à tous et à toutes, quoi. Enfin, c'était le but aussi de la manœuvre.
Vous êtes combien du coup à travailler là-dessus ?
Alors pour le moment je suis toute seule, mais là j'ai trouvé quelques petits coups de main qui viennent me rendre service, donc c'est très sympa, qui m'aident à scotcher le mur, etc. Et voilà, les participantes et participants devraient pas tarder à arriver puisque l'événement démarre maintenant.
Comment vous êtes arrivée du coup à collaborer avec CMA?
Alors, en fait, on avait des connaissances communes avec Sacha qui travaille au CMA. Et donc, on s'est re-rencontrés récemment. C'était l'anniversaire du centre LGBT. Et en fait, on s'est retrouvés là-bas pour fêter l'anniversaire du centre LGBT, Nozig, à Nantes. Et donc, il m'a proposé à ce moment-là, en fait. Il devait travailler avec un autre pote qui, lui, n'était pas dispo, etc. Et donc, moi, j'étais très enthousiaste parce que c'était un projet militant et que j'aime bien pouvoir acter au sein des assos militantes queer, etc. Donc, je suis ravie d'avoir été invitée pour cette édition, cette première édition. Ouais.
Et ça vous arrive souvent de faire des collaborations comme celle-ci ?
Ça arrive de temps en temps. Effectivement, là, il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, j'ai fait ça avec Nozig, donc le centre LGBT. J'ai également fait la même chose. Donc là, c'était sur 2 jours de workshop où on a fait ça dans les nouveaux locaux de Nozig. Donc c'était super sympa aussi. Et un très bon moment. Donc ouais, j'avais hâte de remettre ça. En plus, là, on est en extérieur, donc c'est agréable, il fait beau. On va profiter. On va être bien. Voilà.
Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît ?
Alors, je m'appelle Hermel, j'ai 30 ans, je suis une personne non-binaire. Et queer. Et bah aujourd'hui, je viens un peu découvrir les différentes activités qui sont proposées. Ce matin, il y avait un atelier d'écriture de contes en dehors des stéréotypes de genre que j'ai trouvé super intéressant. On est dans un ciné-débat sur les personnes intersexes, là aussi, sujet très intéressant.
Ce matin, du coup, pour l'atelier d'écriture de contes, qu'est-ce qu'il y avait exactement comme texte ?
Du coup, on est parti des contes un peu classiques, La Petite Sirène, Cendrillon et tout ça. On a noté tout ce qui ne nous plaisait pas dans le sexisme, le patriarcat, les normes hétérosexuelles, etc. Et on s'est mis à réécrire une histoire avec des femmes fortes, indépendantes, qui n'ont pas besoin d'hommes pour exister, par exemple. Et avec des gens polyamoureux, des personnes non-binaires. Enfin, on avait vraiment envie de faire quelque chose de très nouveau qui casse les codes. Et là je vais continuer ma journée, malheureusement je pourrais pas être là ce soir, mais je sais qu'il y a un spectacle, il y a plein de choses. Je suis allé faire un tour aussi du côté du marché des créatrices qui vendent des pins, des affiches, des trucs très très chouettes, donc une très belle journée ce festival.
Comment vous avez entendu parler du festival justement ?
Alors vraiment par hasard, il se trouve qu'il y a 2 jours ici même, il y avait un atelier de bal dégenré pour personnes queer, et du coup j'ai vu l'affiche et je suis venu, voilà.
Et est-ce que vous estimez qu'à Nantes, il y a suffisamment d'événements de ce genre ?
Je trouve que Nantes, il y a une belle communauté queer. Ça fait toujours plaisir quand il y a des événements qui sont organisés, des choses. Moi, je connais en fait pas énormément tout ce qui se passe. Je commence à rentrer un peu dans la commu. Donc, je pourrais pas dire s'il y en a pas assez ou au contraire s'il y en a suffisamment. Mais moi, j'aime bien découvrir que il y a des initiatives qui se font par-ci, par-là. C'est toujours intéressant.
Auditeurs, auditrices, alors vous l'avez bien compris, pour terminer l'émission, place à la rubrique littéraire. Alixis nous parle donc du livre Le magicien quantique de Jarek Kunskan.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Et de retour dans cette chronique hebdomadaire, chronique littéraire, dédiée donc à des livres plus ou moins récents dont je me fais un plaisir de vous parler, vous, chers auditeurs, auditrices de la Radio Prune. Et si vous écoutez de temps en temps cette chronique et cette émission Curiosité, peut-être vous le savez, j'aime bien un petit peu la science-fiction et donc je vais vous parler d'un autre livre de SF. Alors un livre qu'on peut qualifier qui relèverait du genre, du sous-genre, c'est pas méchant de dire sous-genre, du genre de la hard science fiction. Alors, ça ne veut pas dire que c'est spécifiquement hardcore, ça dépend ce qu'on entend par ça. En fait, c'est de la science-fiction qui réfléchit à proposer quelque chose de scientifiquement à peu près crédible, on va dire. En gros, le meilleur exemple, ça serait toute la première partie de 2001, Odyssée de l'espace, en opposition avec Star Wars, par exemple, qui là est plutôt de space opéra, des aventures dans l'espace. Et ce dont je vais vous parler, s'appelle le livre s'appelle Le Magicien Quantique, et il est écrit par Derek Kunzkun, un écrivain américain. Ce livre est sorti donc, tout d'abord chez Albin Michel en grand format, puis en format poche chez les éditions Le Livre de Poche, et c'est cette version que j'ai pu découvrir. Alors, art science fiction, c'est ce qui est annoncé. Cela dit, on est quand même aussi dans un roman d'aventure. C'est assez imaginatif, et ça, c'est un vrai plaisir. J'ai eu un vrai plaisir à lire ce livre, puisque justement, ça reprend tous les codes de l'exploration spatiale avec la découverte de mondes différents, avec l'évolution de l'espèce humaine dans l'espace ou sur d'autres planètes qui va donc, au fil des siècles et des millénaires, évoluer différemment en fonction de la pression, de l'état de la planète. Et donc, on a, par exemple, une nouvelle espèce qui s'est habituée aux profondeurs marines, donc qui est quand même un peu humaine, mais un peu différente, et qui peut vivre à des pressions assez hallucinantes, donc qui ressemble un peu à un phoque. On a ce personnage principal qui est le magicien quantique, donc, et qui est quelqu'un qui fait qui est un escroc, en fait, qui se vend au plus offrant pour proposer des escroqueries qui utilisent justement la physique quantique. Alors, pas besoin d'avoir lu un livre de Stephen Hawking pour comprendre de quoi il s'agit dans le livre, en tout cas, puisque c'est bien expliqué. Et puis surtout, c'est utilisé à des fins de divertissement, de fun. Et il va être envoyé sur un coup fumant, un grand coup, un coup qui rapporterait beaucoup d'argent et en plus qui, pour le convaincre, aurait une portée morale, puisqu'il s'agirait d'aider un peuple en difficulté qui essaie de se venger d'une espèce de grande corporation impérialiste. Donc ça marche toujours, si vous voulez, pour le lecteur ou la lectrice. Et ce personnage, donc c'est lui, le magicien quantique, qui est aussi un homme augmenté, c'est-à-dire son cerveau a des capacités autres, de l'ordre d'un ordinateur quantique, justement. Il va, pour pouvoir faire ce coup, ce casse, d'une certaine manière, devoir faire équipe. Et donc, ce roman de science-fiction, donc, qui est, selon toute apparence, un vrai roman de SF, utilise également, en fait, les ressorts d'un film de casse, ou d'une histoire de casse, à la Ocean's Eleven, avec le recrutement de plusieurs personnes qui sont spécialisées chacun dans leur domaine et qui vont tous pouvoir participer à ce casse pour justement leurs facultés spécifiques à un moment donné. Et c'est tous évidemment ces personnages, des personnages hauts en couleur qui sont en plus assez sympathiques. On s'attache à ces bonhommes, de l'espace, et on a envie justement, voilà, de suivre leurs aventures, donc de cette équipe un peu de mission impossible de bras cassés de l'espace. Alors effectivement, en termes d'ambition, on n'est pas non plus dans 2001 Odyssée de l'espace non plus. L'idée, c'est quand même justement de raconter un récit d'aventure, un récit de braquage finalement, mais fait par des gens au grand cœur. Et je trouve que dans le genre, c'est une vraie réussite. Je l'ai vraiment dévoré ce bouquin lors de mes dernières vacances, et je vous conseille peut-être de faire pareil pour cet été. Ça s'appelle Le Magicien Quantique, et c'est donc écrit par Derek Kunzkun. Et bonne nouvelle, si ça vous plaît, sachez qu'il a prévu d'écrire des suites. La deuxième est déjà disponible en France. Déjà traduit, c'est Le Jardin Quantique. Voilà, vous ferez le lien assez rapidement. Et puis probablement qu'il y en aura d'autres si le succès est au rendez-vous. Donc, Le Magicien Quantique de Derek Kunzkun, édité chez Albin Michel, puis en poche, chez Le Livre de Poche, pardon, et déjà bien sûr disponible.
Merci Alexis pour cette chronique littéraire. Auditeurs, auditrices, vous l'avez bien compris. Ainsi se termine notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, celle de Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un bon week-end.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.